message de William Marion Branham, prêché le 2 mars 1960 à Phoenix, Arizona, USA. Demeurons debout juste pour un moment pour la prière. Inclinons nos têtes. Notre gracieux Père Céleste, nous sommes en effet un peuple privilégié ce soir, que nous puissions regarder à ton visage glorieux et t'appeler notre Père, sachant que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que le Saint-Esprit rend témoignage avec nous que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et il est notre témoin que nous sommes passés au-delà de cette ligne, car les choses du monde que nous avions l'habitude d'aimer et de chérir sont mortes maintenant. Et nous avons été élevés de nouveau avec Christ, et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en lui, nous réjouissant dans sa présence. Maintenant, comme nous te remercions pour ceci, et ce soir, en cette occasion, nous prions qu'il nous visite d'une manière puissante ce soir. Bénis cette petite église, laquelle nous aimons, et cette grande fraternité et l'amour que nous avons pour elle, et pour son pasteur, et pour tous les membres, et pour tous ceux qui fraternisent avec nous ici dans cette réunion. Et nous prions, Père Céleste, que ce soir soit une soirée spéciale, que nous nous souvenions longtemps de sa présence ce soir. Et s'il y en a ici ce soir qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, qu'ils puissent le trouver ce soir, Seigneur. Celui qui est sorti dans le désert pour rechercher les brebis égarées qui ne sont pas encore retournées au bercail. Accorde-le, Seigneur, et qu'il y ait de la miséricorde dans le camp ce soir, car c'est ce que nous supplions au nom du Seigneur Jésus. Nous demandons ceci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est si bon d'être de retour dans ce tabernacle ou l'église ce soir pour avoir une bonne fraternité. Et aujourd'hui, j'ai simplement vécu des petites pépites d'hier soir. En regardant dans l'auditoire et voyant différentes personnes, les visages de ceux que j'ai rencontrés, comme j'ai dans les temps passés, j'ai voulu regarder pour eux et leur serrer la main ou quelque chose. Mais oh, nous étions déjà bien en retard et j'ai dû simplement me hâter. Mais je veux que vous sachiez qu'il y en avait plusieurs hier soir que j'ai reconnus dans d'autres réunions. Et maintenant, hier soir, quand je suis entré à la maison, je dis à ma femme, j'ai dit, je me demande ce que cela sera lorsque nous traverserons la ligne. Nous tenons là, regardant en bas et disant, eh bien, voilà frère tel et tel, et voilà, oh, ce sera un vrai bon temps. Et nous attendons impatiemment pour ce jour, et bientôt, bientôt, et je ne sais pas quand ce sera, mais ce sera sûrement un temps glorieux. Je crois que Jean, après qu'il ait vu les grandes gloires de Dieu et qu'elles lui furent révélées dans l'Apocalypse, il dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Il a vu que c'était merveilleux. Et quelques-unes de ces personnes, il y a environ 2 semaines, j'étais à Kingston, en Jamaïque, et plusieurs personnes pensaient, et le pensent encore, que les visions n'apparaissent seulement qu'à la plateforme. Oh, ce n'est même pas le 10e d'entre elles. Ce n'est même pas le 19e d'entre elles. Elles apparaissent tout le temps, partout. Et pas une seule fois, cela n'a été faux. Et les hommes d'affaires chrétiens, les hommes du plein évangile, que je visitais ou j'étais là comme visiteur avec leur chapitre, et 2 soirs ont eu lieu et nous avions eu la prédication de l'évangile. Et ensuite, et pour me familiariser un peu avec l'auditoire et ressentir l'esprit des gens, et j'ai dit, je crois que ce serait suffisant ce soir si nous passions des quarts de prière et commencions à prier pour les malades. Et le Seigneur nous a bénis. Et le 2e soir s'est passé. Et ensuite, nous sommes entrés dans la salle à dîner de l'hôtel Flamingo, ou la cour, nous pourrions l'appeler ainsi, ici où nous restions. Et là, tout est basé sur le plan européen. Quand vous payez votre loyer, vous payez votre facture de nourriture, ça va tout avec le loyer. Et nous étions en train de déjeuner. Et il y avait là un grand nombre des hommes du plein évangile et d'autres aussi. Et la question survint. Ces visions, dirent-ils, elles sont merveilleuses. Ce serait absolument merveilleux si elles apparaissaient n'importe où. Oh, j'ai dit, elles le font assurément. Et j'ai dit, cela ne guérit personne. Je dis, si vous avez déjà remarqué, je demande aux gens, cela aidera-t-il votre foi pour croire Dieu? Les visions ne guérissent pas. Christ a déjà fait cela. C'est seulement pour aider votre foi. C'est simplement quelque chose que Dieu a ajouté, une bénédiction qu'il a promis d'envoyer, une confirmation des derniers jours. Nous y arriverons plus tard, tout au travers de la semaine. Mais nous étions assis là à la table et j'ai dit, ici, maintenant, le Saint-Esprit est présent, maintenant. Et frère Chakarian, vous le connaissez quasiment tous, frère Demos, et c'est l'un de mes amis intimes, et frère Argandrait, et autant de différentes personnes, frère Sonnemont, les présidents et les vice-présidents, et ainsi de suite, des hommes d'affaires du plein évangile. Et j'ai dit, ce garçon qui vient ici est malade. Le garçon, le serveur. Et il s'est levé près de la table, le Saint-Esprit commence à lui parler. Et lui a dit, disant, maintenant vous souffrez d'un trouble cardiaque. Votre femme aussi est une chrétienne. Vous croyez, mais vous avez peur. Et cela, et comment cela? Cela commence à lui dire qui il était, tout à propos de cela. Et ce garçon a quasiment laissé échapper le beurrier dans mon assiette. Alors il dit, cela est tellement vrai. Ensuite, je lui ai dit, pas moi. Mais le Saint-Esprit a révélé ce qui n'allait pas avec sa femme à la maison et leur prière qu'ils avaient eue ensemble ce matin-là avant qu'ils ne partent. Et son intention était de me voir ce jour-là. Oh my! Il a failli s'évanouir. Et il dit, je ne comprends simplement pas comment cela est fait. J'ai dit, moi non plus. La seule chose que je sais, c'est, frère Chakarian, ou excusez-moi, frère Duplessis était là à l'auto quand je suis arrivé. Et frère Mercier et moi, et nous parlions du bel esprit à cette église-là. Nous aimons cela, une si bonne fraternité. C'est très bien, frère. Continuez comme cela. C'est très bon, notre frère pasteur. Et c'est bon, et nous parlions, et je... Il dit, frère Branham, je suppose que vous avez beaucoup de dur. Je dis, non. La chose qui me surprend, c'est la grâce de Dieu. Je dis, j'ai exténué sa miséricorde tant de fois, mais je ne peux pas exténuer sa grâce. Je suis si content de cela. Et alors, comme nous parlions à table ce matin, ensuite il y avait une jeune femme qui descendait avec des draps sur son épaule, traversant le lieu à l'une des salles pour arranger les lits. J'ai dit, rappelez-la simplement ici. Et nous l'avons rappelée. Et le Saint-Esprit commença à lui raconter à propos de son trouble. Et elle n'était pas chrétienne, pas une croyante du plein évangile, je puis dire cela. Elle avait fait une profession de foi quand elle était un petit bébé, et sa mère l'avait conduite à l'église, et elle, 12 ans ou quelque chose à peu près, elle avait été baptisée, mais n'avait jamais fréquenté l'église. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, pas une chrétienne. L'église ne fait pas de vous un chrétien. L'église ne fait que vous aider à devenir un chrétien. Elle vous aide à demeurer ce en quoi vous êtes né. Elle vous aide à contenir votre expérience pendant que vous fraternisez ensemble avec des frères de la même précieuse foi. Et ensuite, pendant que j'étais assis là, je regardais, et frère Demos Chakarian m'appela hors de cela, il dit, qu'est-ce qu'il y a? S'il ne l'avait simplement pas dit à ce moment-là, j'ai dit, rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur, quelqu'un qui est près de moi est sur le point de mourir. Et il va y avoir un jeune homme qui va cracher du sang de sa bouche. Et j'ai dit, où est Billy? Plusieurs d'entre vous connaissez mon fils, Billy Paul. Sa mère est morte quand il était juste un petit bébé. Et je le transportais. Le soir, nous n'avions pas les moyens d'avoir suffisamment de charbon pour garder le feu. Alors je mettais sa bouteille sous mon épaule comme ceci. Et je la gardais chaude pour lui le soir. Et quand il se réveillait pleurant pour sa mère, je plaçais la bouteille dans sa bouche. Et elle me demanda, quand elle est morte, reste toujours avec Billy. Et nous avons été de vrais copains. Et alors partout où je vais, j'emmène Billy avec moi. Et il est resté avec moi. Alors Billy se préparait pour aller à ce qu'ils appellent le jardin d'espoir pour obtenir des photos. Je l'ai appelé rapidement, j'ai dit, n'y va pas, quelque chose est sur le point d'arriver. Plusieurs fois, les visions disent des choses. Nous ne savons pas ce qu'elles sont. Les prophètes de la Bible ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils l'écrivaient simplement. Et ils étaient des hommes confirmés, inspirés. Et frère Chakarian a dit, frère Branham, que dites-vous qui va avoir lieu? J'ai dit, je ne sais pas. Quelqu'un, il n'avait pas de dents. Je l'ai vu suffoquer deux fois et mourir. L'autre personne, ils ont dit, quelque chose crachait du sang de leur bouche, ce semblait être un jeune homme, et cela dit, il ne peut pas mourir car il n'est pas prêt. Et ensuite, nous avons juste attendu, surveillé, et je me suis senti conduit d'aller à la Jamaïque, mais pas à Porto Rico. Alors que nous avons eu le temps d'aller à Porto Rico, le même endroit où cet avion est tombé en Jamaïque et a tué tous ces gens, ils avaient simplement l'air de porcs pendant hors de leur ceinture de sécurité, seulement des parties de leur corps tout ébouillantées, et tout cela était poussé comme cela en dehors, et nous, et il y avait encore l'avion qui gisait là quand nous sommes entrés, et notre avion revenant pour nous conduire à Porto Rico a fait sauter les pistons au même endroit quand ils se sont arrêtés pour nous prendre, et Billy a dit, « Papa, es-tu sûr que nous devrions même prendre une chance sur cela ?» J'ai dit, « Le chapitre des hommes d'affaires chrétiens ont dit que je dois venir. C'est pour la fraternité du chapitre que j'y vais ces quelques soirs. » Il dit, « Vous vous rappelez cette vision ?» J'ai dit, « Oui. » Mais trois jours plus tard, quand nous avons, je me tenais dans un jardin, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau à Porto Rico, et frère Fred Sofman, il est peut-être ici ce soir, un ami canadien prenait des photos. Et ce grand, vous avez, c'est beau ici à Phoenix, c'est beau à Los Angeles, c'est beau à Miami, mais ça ne pourrait jamais venir à la cheville de Porto Rico. Oh, cela est beau, je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Ces grands récifs se cassant là-bas, oh ma, à environ un demi-mille, et les flamingos qui marchent dans les parcs tropicaux et tout cela, et je n'ai jamais rien vu de si près comme le ciel. Et frère Sofman s'est tourné, il a dit, frère Branham, le ciel doit avoir l'air de ceci. J'ai dit, oh, ça ne devrait pas, ça ne peut même pas atteindre à la cheville du ciel. Il dit, oh, c'est grande mer. J'ai dit, mais c'est le balancement de la terre qui fait les vagues. J'ai dit, mais ce sera paisible là-bas. Elle coulera aussi paisiblement que possible. Et j'ai dit, ce ne sera pas des flamingos qui marcheront dans le parc, ce seront des anges qui se promèneront dans le parc où nous fraterniserons. Et juste alors, j'ai vu ma belle-mère et mon beau-père passer, marchant près de moi, et mon beau-père est décédé maintenant depuis environ 8-10 ans. Et à cette minute même, ma belle-mère passait pour le rencontrer. Elle est morte au même moment. Et ensuite, 2 heures après, quand je suis arrivé à Miami, j'ai appelé pour voir comment tout allait à la maison. Ma belle-mère, elle n'a pas de dents, elle avait suffoqué 2 fois, elle est morte. Son fils n'était pas prêt à mourir, plus ou moins une sorte d'alcoolique. Et cela a éclaté une hémorragie, venant d'une hémorragie dans son estomac, et il a simplement craché du sang de sa bouche de toutes les manières. Et frère Chakarian m'a appelé l'autre jour, il a dit, « Frère Branham, je n'ai jamais rien eu de si frappant, quelque chose, entendre une chose pareille à propos de cela. » Voyez, c'était juste pour lui, pour appeler cette vision en ce temps-là, de l'arrêter, afin de ne pas savoir qui c'était, afin que ce soit quelque chose pour lui qu'il le comprenne. Il dit, je crois que le ministère est maintenant au commencement de faire de l'effet. Qu'il en soit ainsi. Qu'ici même, à Phoenix, que quelque chose arrive qui inspirera le monde entier, le Saint-Esprit parmi nous, et qu'il fasse quelque chose qui va simplement faire en sorte que nous resserrions l'armure et que nous nous préparions pour sa venue. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour ne pas vous garder longtemps parce que vous êtes debout, mais vous êtes un bon auditoire. Il semble que je pourrais parler simplement toute la nuit, mais je ne le ferai pas. Je ne devine pas, mais je suppose qu'hier soir, vous pensiez que j'essayais de le faire. Je vais simplement vous donner un petit indice. J'ai parlé sur un sujet l'autre matin à mon tabernacle. J'ai commencé à 9h30 et j'ai terminé à environ 12h30. Je leur avais dit auparavant, quand même, cette chose. C'était sur entendre, reconnaître et agir. Peut-être qu'un dimanche après-midi ou quelque chose de semblable, nous arriverons à ce même sujet. Pour environ 1 an, le Saint-Esprit agissait avec moi pour que je parle de cela. Et finalement, j'en ai parlé à l'église. Je ne me souviens pas combien de bandes les gars avaient cela avant de partir pour l'emporter. Mais tournons-nous maintenant dans nos Bibles rapidement au 7e chapitre de Saint Matthieu et nous commençons à lire au verset 24. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée et les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison et elle n'est pas tombée car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée et sa chute a été grande. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction maintenant à la lecture de sa parole. Je désire parler quelques minutes sur le sujet de la tempête qui approche. Et j'ai confiance en Dieu que nous serons capables de nous abandonner nous-mêmes au Saint-Esprit. Car n'importe qui sait que je ne suis pas un prédicateur. Il y a des prédicateurs derrière moi ici. Mais moi-même, je n'ai jamais eu l'éducation pour être un ministre. Mais dans mes vieilles manières lentes, le Seigneur m'a donné autre chose à faire. Mais j'aime prendre le temps afin que je puisse expliquer ce que je sais à propos du Seigneur et à propos de sa bonté. Et j'essaie d'en parler aux autres. Et maintenant, nous parlons ce soir sur la tempête qui approche. Et si j'échoue dans mes paroles d'exprimer ce que je ressens dans mon cœur, je prie que le Saint-Esprit le révèle. Jésus parlait ici d'une tempête qui approchait, qui doit frapper chaque homme, chaque femme qui est née dans le monde. Il n'y a simplement pas moyen d'en sortir. La tempête vous frappera à un moment ou à un autre. Et cela dépend de quelle sorte de fondation vous avez, soit que votre maison tienne le coup ou pas. Il y a eu plusieurs vies de sauvées à cause de la préparation pour les tempêtes. Il y a bien eu des vies de perdues parce qu'ils n'ont pas, ils ont manqué, ils n'ont pas pris garde à l'avertissement au sujet des tempêtes qui devaient venir. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté une histoire qui était arrivée, je crois que j'ai lu dans un journal, là en bas en Floride. Ils ont plusieurs grandes tempêtes qui balayent toute la Floride, des typhons qui viennent de la mer et qui apportent de l'eau à travers les quartiers de la ville, dans la cité, balayent tout. Et on m'a dit que leurs prophètes de la température ont toujours l'œil ouvert sur de telles tempêtes. Et d'une certaine manière, à travers les éléments, ils peuvent contacter le changement de la température, l'atmosphère, de quelle manière cette température se retrouve, cela va faire naître une de ces tempêtes. Et parce qu'ils en ont fait une vie d'études, et par certains instruments et les choses que la science leur a données, et ensuite, d'avance, ils peuvent savoir que quelque chose arrivera. Entendant de quelle manière la tempête vient, combien de vent il y a derrière cela, et de quelle manière les autres tempêtes vont arriver, tous ces vents, et si elle sera capable de combattre ou de repousser la tempête. Je pourrais arrêter ici et prêcher une heure, rien que là-dessus. Cela va prendre la plus grande tempête qui vient. Cela prend un vent le plus haut pour renverser cette tempête. Et ainsi en est-il aujourd'hui. Et nous savons tous que nous avons une tempête qui approche. Et le seul vent que je connaisse qui peut faire tourner la tempête sera le vent violent qui tomba au jour de la Pentecôte. On m'a dit qu'il y a des hommes, même dans la ville maintenant, qui parlent contre le communisme et ils devraient être, mais seulement parler contre n'est pas suffisant. Nous devons découvrir comment faire pour renverser la chose. Et ensuite, il n'y a qu'une seule chose qui puisse faire retourner cette tempête, et c'est une tempête plus puissante qui puisse l'environner et changer son cours. Et ces prophètes de la température, là en Floride, sont très précis avec leurs prophéties. Ils sont placés là dans ce but pour avertir les gens. Et je lisais, je ne me souviens plus maintenant, je crois que c'était sur le journal, d'une tempête il y a quelques années. Elle était en route vers la Floride centrale, et toutes les régions autour de Okeechobee furent averties. Je viens de quitter cet endroit il y a environ 5 semaines. Et il y avait là un voisin, un homme, qui gardait le contact avec la radio tout le temps à cause de ces tempêtes. Et il était un chrétien renommé. Et il entendit que ce grand typhon venait de ce côté, entortillant les arbres, et tous furent avertis d'aller en sécurité. Alors il pensa à son voisin, qui avait un poulailler et des bâtiments légers avec leurs poulets dedans, leurs maisons couveuses, et ainsi de suite, et leurs enclos. Où tout ce qu'ils avaient dans la vie était relié avec ces poulets, c'était là leur existence. Et il a couru rapidement avec frénésie jusqu'à la clôture, il arrêta sa voiture, il saute à l'endort, il dit à ce gars, prends tous ces poulets, place-les dans ton abri à tempête, et toi, accours vers le mien, parce qu'il s'en vient un typhon, une tempête qui va tout tortiller par terre. Et l'homme se tint là, et il le regarda en face, et il rit de lui, et dit, non sens, Je les ai déjà entendus prédire de telles choses auparavant et ça n'est jamais arrivé. Nous entendons des remarques comme cela dans la ligne. J'ai entendu que ceci arriverait, cela arrivera. Mais cela va arriver un de ces jours. Et c'est dans notre intérêt d'écouter chaque avertissement. Mais cet homme a dit, je n'ai pas le temps pour de telles sottises, j'élève des poulets, je n'ai pas de temps pour cela. Et il s'écria, le voisin dit, au nom de Dieu, il dit, laisse ces poulets tranquilles alors Jean, et viens rapidement, toi et ta famille. Si tu ne veux pas le croire, laisse venir ta famille. Et il dit, je ne veux pas que mes enfants s'excitent à propos de quelque avertissement de la radio. Mes enfants et moi vont décider que nous vivrons comme je vis. Et ma femme m'écoutera parce que je suis le gagne-pain de ce foyer. Elle doit m'écouter. Je suis le patron ici. Et je ne laisserai pas mes enfants tout excités, bouleversés à propos d'un non-sens. Et le voisin fut chassé au dehors et il s'en alla dans sa maison, dans son lieu de refuge. Et tout à coup, les nuages étaient sur lui en le disant, c'est comme ça que le jugement frappe. Cela vient si soudainement. Vous vous demandez, comment cela peut-il venir si rapidement? Comme j'ai vu des hommes cruels qui blasphémaient Dieu auparavant tomber, crier, dire, comment peux-tu me traiter de cette façon? Le tout, chaque fondation fut balayée sous lui en un instant. Oh, cela est payant de prendre garde à un avertissement. Oh, vous pouvez peut-être rire du messager, vous pouvez peut-être même le tuer, mais vous ne pouvez pas tuer le message. Il continuera tout de même, le message de Dieu est éternel, ses paroles ne failliront jamais. Paul eut du succès pour faire lapider Étienne, mais tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il s'abandonne à Christ, il ne fut jamais capable de s'éloigner de ce message. Je vois le ciel ouvert et Jésus se tenant à la droite de Dieu. Quelque chose s'empara de lui. Ce n'était pas le messager, c'était le message qu'il avait. Et pendant que la tempête balayait le pays, elle s'empara du poulailler, du fermier, et ils n'ont jamais retrouvé son corps. Et sa femme combattait frénétiquement, et il demeurait près du grand lac Okeechobee, et les eaux commençaient à s'élever, alors que le typhon élevait les eaux depuis le fond du lac. C'est ce qui les rend si dangereuses. Elles sont peu profondes. Les bateaux chavirent, c'est comme cela que les vagues montent et chavirent les bateaux sous eux. Les tempêtes viennent et tourbillonnent l'eau. Et tout simplement, et cela porte cela pendant des milles. Et l'eau balayait tout jusqu'à ce que la mer sache qu'il n'y avait plus d'espoir, si ce n'est de faire monter ses enfants sur la cheminée. Elle prit ses enfants et elle les conduisit sur le toit du bâtiment, s'agrippant à la cheminée de la maison. Et ensuite, la vie sauvage, le moccasin cotton month, un serpent plus mortel que vos diamondback rattlers. Ils rampaient pour leur sécurité et ils arrivèrent sur le toit juste avec elle. Et en écoutant son mari, en ne prenant pas garde à l'avertissement, elle piochait, se débattait, mais elle devait se tenir. Elle regardait ces serpents qui étaient vraiment de mauvais serpents, mordre ses enfants jusqu'à ce qu'ils meurent tous sur le toit. Et la mère elle-même fut tellement mordue jusqu'à ce que finalement elle mourut. C'est de la seule manière que nous avons connu l'histoire. Et après que la tempête se soit apaisée et que les patrouilles de recherche cherchaient pour les corps et ainsi de suite, ils l'ont trouvé couché sur le haut du toit avec ses enfants couchés à son côté. Oh, cela paye de prendre garde à l'avertissement. La première chose que vous faites avant qu'il puisse y avoir un avertissement, il doit y avoir une préparation faite pour être en sécurité. Sinon, il n'y a pas besoin d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement, c'est seulement une voix de quelqu'un qui vous fait vous préparer pour le danger. Il doit y avoir une préparation faite d'abord. Et ensuite, si la préparation est faite, alors l'avertissement peut aller de l'avant pour vous causer à prendre votre décision, que vous vouliez l'écouter ou non. Et si vous ne voulez pas l'écouter, alors cela dépend de vous. Mais si vous l'écoutez, il y a sécurité. Dieu a la même méthode. Nous travaillons d'après la méthode de Dieu dans cette manière-là. Dieu, dans les jours anciens, quand le monde entier diluvien, lorsque les gens sont devenus si méchants et si pécheurs que Dieu ne pouvait plus les regarder et être juste, Dieu est juste et il a des lois. Et quand ces lois sont brisées, toute loi qui est brisée, qui n'a pas de pénalité, n'est pas une loi. Vous ne pouvez pas briser les lois de Dieu sans avoir à payer pour cela quelque part. Vous devez le faire. La Bible dit, soyez sûrs que vos péchés vous retrouveront. Et qu'est-ce que le péché? Je voudrais arrêter ici un moment. Bien des gens pensent que fumer des cigarettes est un péché, ce n'est pas cela. Bien des gens pensent que mentir est un péché, ce n'est pas cela. Commettre l'adultère, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Vous, les raisons pour lesquelles vous faites ces choses, c'est parce que vous êtes un incroyant. Il y a seulement deux choses. Soit vous êtes un croyant, ou soit vous êtes un incroyant. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas ces choses. Et si vous les faites, je ne sais pas quelle sorte de profession de foi vous avez. Mais si vous faites cela, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Ainsi le dit la Bible. Nous avons trop de professions de foi sans une possession de cela. Trop le disent et ne le vivent pas. Je pense même, nous avons trop de pratiques de sermons et pas assez de vivre nos sermons. Ce serait beaucoup mieux si nous vivions notre sermon. Chacun de nous serait un ministre. C'est mieux de me vivre un sermon que de m'en prêcher un. La Bible dit cela. Vous êtes des épîtres écrites de Dieu, lues de tous les hommes. Alors c'est mieux de vivre le sermon. Le péché, c'est parce que vous ne croyez pas. Jésus n'a-t-il pas dit, dans les jours de sa chair sur la terre, n'a-t-il pas appelé les gens qui ne voulaient pas mentir, qui ne voulaient pas voler, qui ne commettaient pas l'adultère, des hommes justes, des prédicateurs, des prêtres, il a dit, vous êtes de votre père le diable, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il y a quelque temps, je l'ai fait, faisant des appels à l'autel. J'aime Jean 5, 24. Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne passera point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Celui qui croit, vous dites, oh, c'est plutôt léger. Non, c'est très profond, car quand vous croyez, aucun homme ne peut appeler Jésus le Christ seulement par le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous avez cru à la vie éternelle, et vous avez la vie éternelle. Celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La préparation, se préparant, et Dieu a vu la méchanceté du monde. Il a vu cette génération méchante et adultère, et sa sainteté ne pouvait plus le supporter. Oh, ce monde pécheur! Je me suis arrêté l'autre jour sur ma route vers l'épicerie avec ma femme et nous parlions d'une certaine jeune dame de notre ville. Une vraie température très froide et avec un petit manteau joufflu et habillée moralement avec ses petits shorts qu'elle porte l'été, des petits souliers de neige sur le sol. Ma femme a dit, cette femme ne peut pas, tu sais, ne peut pas être confortable. J'ai dit, non, elle n'est simplement pas dans son bon état mental. Elle me dit, eh bien, sais-tu qu'elle va à l'école secondaire? Alors j'ai dit, elle va peut-être à l'école secondaire, mais cela ne fait quand même pas que les choses soient correctes. J'ai dit, elle ne peut pas être correctement, bien mentalement. Quand nous sommes allés en Allemagne, j'étais en Allemagne il y a quelque temps, dans une grande réunion où le Seigneur nous a donné environ 10 000 âmes par soirée. Et j'étais tellement étonné un soir, quand je suis revenu de la réunion, là en bas de la rue, dans un lieu où j'étais invité pour un petit dîner. C'était la fermeture de la réunion et tous les chrétiens étaient assis là, alentour, buvant de la bière. Eh bien, l'Amérique, le Canada, l'Angleterre sont les seules nations que je connaisse qui refusent que les chrétiens boivent. Ils ne s'enivrent pas, mais nous, Américains, ensuite, quand je n'en bois pas, alors après quelque temps, une question surgit autour de la table. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était que je ne buvais pas ma bière. Était-ce parce que ce n'était pas bon? Et docteur Bugenbühl, assis près de moi, celui qui m'a fourni, qui m'a été donné comme interprète, j'ai dit, de quoi murmurent-ils tous à cause de moi? Il dit, ils se demandent pourquoi vous ne buvez pas. Maintenant, je sais que cela est écrit, quand vous êtes à Rome, soyez un Romain. Mais j'ai dit, dites-leur ceci, je ne les condamne pas, mais je suis né sous une naissance de Naziréa. Je ne suis pas supposé boire. Je ne voulais pas les blesser. Et ils ont compris. Et ils ont continué tout simplement à boire. Et ensuite, en Italie, nous avons retrouvé quasiment la même chose. Et dans plusieurs parties différentes du monde. Quand vous allez dans les nations, vous trouvez l'esprit de la nation. Je me rappelle le Saint-Esprit me donnant un avertissement de ne pas aller au YMCA en Finlande. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et je suis parvenu à le découvrir. Ils avaient là des femmes qui donnaient des bains. Et je me suis tenu éloigné, je ne voulais pas entrer avec le docteur Meninen et les autres pour me baigner là. Et j'ai découvert que ces femmes ces laveuses frottaient les hommes. Et j'ai dit, ce n'est pas correct. Eh bien, dit-il, frère Branham, c'est tout aussi bien que vos infirmières aux États-Unis. Il dit, elles ont été entraînées pour faire cela. J'ai dit, je me moque, comment elles ont été entraînées. Cela n'a jamais dû être comme cela. Dieu les a recouvertes et les a faites différemment, c'est vrai. Mais ils ne font pas attention à cela. Ils étaient finlandais, des gens merveilleux, mais c'est l'esprit de la nation. Où que vous alliez, vous trouvez l'esprit de la nation. Et si vous venez en Amérique, vous l'avez vraiment eu alors. C'est le pire de tous. Et ma femme m'a dit, eh bien, ces gens vont à l'église. Et je me suis souvent demandé pourquoi cela ne les condamnait pas dans leur conscience. J'ai dit, ma chère femme, laisse-moi te le dire, ils sont américains. Elle dit, eh bien, ne le sommes-nous pas? J'ai dit, non. J'ai dit, nous vivons simplement ici, mais nous sommes nés de là-haut. Le Saint-Esprit de Dieu est venu sur nous. Et par contre, nous sommes pèlerins et étrangers ici. Ceci n'est pas notre demeure, mais nous recherchons une cité à venir dont le bâtisseur et l'architecte est Dieu. Donc, quand vous êtes nés de là-haut, vous avez le Saint-Esprit descendant de Dieu. Cela change votre nature. Peu importe votre sœur, votre mère, votre meilleur ami peut être habillé de cette manière, mais le chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu est né de là-haut, et leur esprit est celui d'un autre royaume. Oh, je suis si content de cela, la simplicité du Saint-Esprit, de le suivre, de le surveiller, comment il se comporte et comment il vous fait vous comporter. C'est comme cela qu'il en était au temps de Noé, et Dieu devint si plein de cela. Mais avant qu'il envoie une tempête pour détruire le monde entier, Dieu fit une préparation pour ceux qui voulaient rester hors de cela. Et je peux voir Noé se tenant dans la porte de l'arche, prêchant la justice. Oh, il n'y en avait pas beaucoup qui l'écoutaient. Ils étaient un peu comme aujourd'hui, ils voulaient se faire divertir, ils ne voulaient pas l'évangile. Malheur à ces évangélistes de Hollywood qui ont peur d'appeler le péché péché. Nous avons besoin de ces bons vieux prédicateurs de la brousse à l'ancienne mode qui ont le Saint-Esprit, qui n'ont pas peur de prêcher l'évangile avec leurs mains nues, pas recouvertes avec une sorte d'espèce de gants de caoutchouc, mais qui prêchent le retour du Seigneur Jésus, le jugement pour les méchants et le ciel pour les justes et l'approche soudaine de sa venue. Quelle saison? Je ne sais pas. Personne d'autre le sait, mais j'avertirai ma génération. Et si cela vient maintenant, je veux qu'il soit averti. Je peux voir Noé dans cette porte de l'arche même. Oh, je voudrais simplement croire une chose. Ce n'était pas de cette manière, mais Noé se tenait dans la porte. Le seul moyen de sécurité. Et je puis voir Moïse plus tard, se tenant dans la porte, avec le sang sur les linteaux, prêchant le jugement, avec le sang sur les linteaux. Et aujourd'hui, Jésus est à la porte de la bergerie. Les ministres de l'Évangile se tiennent dans cette porte, plaidant avec la congrégation, afin qu'elle vienne en sûreté. Et sans doute que beaucoup ont ri de Noé, ils l'ont ridiculisé. La Bible dit que c'était des moqueurs. Je peux les entendre dire quelque chose comme cela. Noé, n'as-tu pas un meilleur divertissement que cela? Alors nous resterons simplement à la maison. Le monde aujourd'hui, l'Amérique, ne veut pas l'évangile. Ils veulent un divertissement. Ils doivent avoir quelque chose pour les divertir. Beaucoup de musique fantaisiste ou quelque chose comme cela, ou une partie quelconque, une sorte de pique-nique ou un repas au saucisson. Ces choses sont correctes en dehors de l'Église. Mais l'Église, c'est là où le jugement devrait être prêché dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Et un avertissement, le jugement commence à la maison de Dieu, pas les parties, le jugement. Lot fut averti. Et quand les anges, bien qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient des anges, quand ils descendirent, leur message était pour Sodome, sortez de ce lieu pécheur. Dieu a préparé un moyen de refuge pour vous. Sortez de ce lieu pécheur. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, regardez quelle sorte de ville vivait là. Et Jésus compara ce jour avec ce jour-ci. Pécheur! Surveillez quand Lot alla pour le dire à ses gens. Ils se sont ri de lui. Ils l'ont ridiculisé. Et les péchés de la ville ont tourmenté son âme juste. Le message des anges ne les ont pas stimulés. Ça n'avait pas d'effet sur eux. Mais ils leur furent demandés de sortir parce que le jugement était sur la ville. Et Dieu était sur le point d'amener une tempête de feu sur la ville. Et ils ont refusé de marcher. Ils ont refusé de sortir. Ils étaient satisfaits dans leur péché. Et les gens aujourd'hui, ils semblent si confortables dans le péché. Parce que nous possédons une nouvelle voiture, parce que nous pouvons manger 3 repas par jour, dormir dans un lit propre, c'est merveilleux. Mais cela serait bien. Mais nous oublions Dieu quand la prospérité vient comme cela. Je pense que nous avons été ainsi. Nous, prédicateurs et nous, chrétiens, nous avons été si intéressés dans le programme de bâtir nos églises et d'avoir une meilleure église ou quelque chose comme cela, ou une plus grande église, de meilleurs bancs. Oui, vous savez ce que je veux dire. Et nous avons oublié la chose principale, le jugement, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, le jugement éternel. L'ange n'a pas échoué de prêcher le message, bien qu'ils ont essayé de les empêcher, mais leur message continua tout de même. Maintenant, avez-vous remarqué? C'est tout comme un homme qui dit, je vais refuser de croire que le soleil brille. Je n'aurai plus rien à faire avec le soleil. Il ferme ses yeux, il descend dans la cave de sa maison et il dit, je refuse tout simplement de croire que le soleil brille. Pourquoi dites-vous, frère Branham, cet homme, il y a sûrement quelque chose de mentalement dérangé avec lui. Eh bien, un homme qui rejettera Jésus-Christ a le même fondement. Le Saint-Esprit est plus vrai que le soleil. Le soleil faillira, mais le Saint-Esprit ne peut pas faillir. Il n'illumine pas seulement pour le sens de la vue, mais il illumine pour l'âme. Une lumière de gloire qui nous conduit à Dieu, qui rejette ou projette plutôt le calvaire en nous et les souffrances du Seigneur Jésus. Le jugement qui vient est le moyen d'échapper pour ceux qui veulent y venir. Je préfère être totalement aveugle physiquement et avoir ma vue spirituelle que d'être totalement aveugle spirituellement et d'avoir ma vue physique. Je veux avoir une vue spirituelle. Remarquez, qu'est-ce qui n'irait pas avec cet homme? Cela, ses amis viendraient et diraient, Jim ou Jean ou quel que soit son nom, et tu es dans l'erreur, sors de cette vieille cave mal tenue et qui est toute moisie. Et il se tiendrait debout et dirait, je te le dis, je suis satisfait où je suis. Il ne veut pas que le soleil soit le bienvenu pour lui. Il ne veut pas ses rayons guérisseurs. Il ne veut pas sa beauté, sa chaleur pour sa vie. Quelque chose n'irait pas avec cet homme. Et ainsi en est-il de l'homme ou de la femme qui veut rester dans ce monde minable, renfermé dans le péché moisi de l'incrédulité, au point de dire, les jours des miracles sont passés, il n'y a pas de telle chose que la guérison divine, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est parce que vous refusez de sortir des moisissures et des fosses du diable, et de l'enfer et du péché et de l'orgueil. Marchez dans la lumière de l'Évangile, et cela vous conduira dans la chaleur. Oh, comme c'est confortable de voir les jugements qui viennent et de ressentir ce sentiment confortable du Saint-Esprit. Entendez-les parler des bombes atomiques et pensez seulement ce qui est arrivé, une paix qui surpasse toute intelligence. Bien, la bombe ne sortira pas sitôt du fusil jusqu'à ce que nous soyons la présence de Jésus avec la vie éternelle. Nous, les gens âgés, nous redeviendrons jeunes à nouveau, les bébés arriveront à un certain âge, alors plus de mort ni de tristesse. Oh, quelle merveilleuse chose! Vous voulez dire qu'un homme refuserait de venir et de marcher en cela? Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Finalement, s'il ne reçoit pas le soleil, il devient tout pâle, il devient très pâle, la maladie se place sur lui. C'est ce qui se passe avec le monde aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec la plupart de nos églises aujourd'hui. Nous devenons anémiques. Nous avons besoin d'une transfusion de sang. Pâle, parce que nous échouons. Notre santé spirituelle échoue. Nous n'avons plus le zèle pour chercher les âmes, pour avertir les gens, pour chercher nos voisins, pour chercher nos amis, le laitier, le garçon qui apporte le journal. Qui que ce soit, allez chercher quelqu'un pour l'amener au Seigneur Jésus. Mais nous sommes pâles. Nous échouons de marcher dans la lumière, ce qui est notre privilège. Nous échouons quand il s'agit de croire à la santé de Dieu par la guérison divine. On nous dit dans la Bible qu'il viendra un temps pour ceux qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du soleil, que les oiseaux du ciel mangeront leur chair, que les maladies sont en route, que même les médecins ne seront jamais capables de l'arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Les docteurs des Égyptiens, ils étaient beaucoup plus intelligents que les nôtres aujourd'hui. et ils ne pouvaient même pas arrêter les plaies de Dieu, leurs devins, leurs imitateurs non plus. Cela a pris Goshen et la puissance de Dieu pour tenir les gens sous le sang d'un agneau. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sûreté aujourd'hui. J'étais dans une réunion il n'y a pas très longtemps et je regardais un très haut couleur qui est assis ici, je suppose, lui et sa femme. Et je surveillais depuis là où je prêchais. Il hochait sa tête et il se réjouissait dans la réunion. Et cela m'a donné une pensée. Et il y avait un garçon qui est venu dans la réunion une fois, aussitôt que le service a été terminé, il a couru vers moi, il a dit, pasteur, il venait du sud, il a dit, pasteur, je veux trouver le Seigneur Jésus ce soir. Et j'avais un service de guérison. J'ai dit, certainement mon frère, je suis plus qu'heureux de vous conduire à lui. Il dit, après qu'il ait donné son cœur au Seigneur, il dit, je me demande, je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai accouru ici comme cela. Il dit, j'ai entendu parler que vous étiez dans la ville. Et je suis juste venu pour voir ce que, pour vous voir. Il dit, je vous raconterai mon histoire. Il dit, j'ai été plus ou moins un voyageur sans but. Il dit, ma vieille mère était une vraie chrétienne. Mes sœurs étaient chrétiennes. J'ai un frère chrétien. Il dit, j'étais le bébé de la famille. Et un enfant gâté pour commencer parce qu'ils m'ont gâté. Ils étaient si bons pour moi. Mais dit-il, je ne m'occupais pas de ma mère ou de mes relations sacrées. Je voulais être un vagabond. Je voulais vivre la vie d'un homme. Il dit, je pensais d'être un chrétien, j'étais plutôt pour les femmes ou pour les faibles. Et il dit, je suis devenu un cuisinier, et j'étais très bon dans mon métier. Et dit-il, quelque chose d'autre voulait que j'aille au nord. Et un jour, j'ai chancelé dans un camp de pulpe, là où ils coupaient du bois de pulpe, et j'ai été fauché. Et j'ai dit au contremaître, auriez-vous besoin d'un cuisinier? Il prit ses recommandations, il avait dans sa poche de plusieurs différents endroits où il avait été un chef cuisinier. Il dit, eh bien, nous en avons un maintenant. Il dit, mais par contre, jusqu'à ce que vous puissiez vous débrouiller, nous pouvons vous donner un peu d'argent en passant. Nous avons une vieille femme de couleur là maintenant qui est une bonne cuisinière, mais entrez, parlez avec elle. Peut-être qu'elle peut vous utiliser. Et si elle le peut, nous pouvons vous donner un peu d'argent de poche jusqu'à ce que vous vous remettiez sur vos pieds. Et il a dit qu'il était aussi bon qu'il voulait. Il dit qu'il alla là-bas, il rencontra la vieille dame. Il dit qu'il l'aida là aux alentours pendant 2 ou 3 jours. Et un soir, il dit qu'il était assis là, il dit qu'il remarquait continuellement des éclairs sur le côté du mur. Et après quelque temps, il se demanda, est-ce, y a-t-il quelque chose dehors? Et il dit, après quelque temps, qu'il entendit un grondement profond, et c'était un tonnerre. Et il dit, dehors, il entendit des voix qui parlaient. Et elle disait, vous savez, nous ferions mieux de retourner aux chevaux et d'en prendre soin, parce que nous ne serons peut-être pas ici longtemps. Il dit qu'il enleva la couverture de sa tête, il écouta contre le mur, et les éclairs se projetaient de partout, et il vit son patron et le charretier. Et il comprit par leur langage qu'une tempête arrivait au travers des montagnes. Et là, nous appelons là-haut dans les régions du Nord un nordiste, celui, quelque chose qui vient rapidement, sans avertissement. Vous n'avez pas le temps de rien faire, les montagnes sont si hautes, et il brise simplement dessus aussitôt. Et ce signalement éclairé, il dit, vous savez, nous ne serons peut-être pas ici dans peu de temps. Il dit, ça semble comme une tornade terrible qui approche. Et ensuite il dit, je commence à penser, bien j'espère que ça ne frappera pas ici, dit-il, parce que je sais que je ne suis pas prêt à partir. Parfois vous attendez trop longtemps, vous savez. Alors il dit, juste quelques instants encore, et le vent commença à souffler, et les arbres commencèrent à se balancer. Et il dit qu'il écoutait. Le canevas était entre lui et là où la vieille dame dormait. Et il dit, elle frappait sur le paravent. Elle dit, garçon, oh garçon. Il dit, oui. Elle dit, veux-tu venir à mon côté? J'ai une lanterne qui est allumée. Il dit, je suis allé vers elle parce que j'avais peur de mourir. Et il dit, elle avait une lanterne placée sur une vieille boîte à savon. Elle dit, je voudrais te demander quelque chose. Il dit, oui madame. Elle dit, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Il dit, alors j'ai réellement eu peur. Il dit, non madame, je ne le suis pas. Eh bien, dit-elle, mon cher, je veux te dire quelque chose. Tu ferais mieux de te préparer maintenant, parce que tu auras peut-être à le rencontrer pas préparé dans les prochaines minutes. Il dit qu'elle lui a dit, veux-tu t'agenouiller ici avec moi? Il dit, nous nous sommes agenouillés sur le côté de la vieille boîte à savon. Il dit, pasteur, je vais vous dire la vérité. J'avais trop peur pour prier. Il dit, les arbres fouettaient le long de ce bâtiment, les éclairs se projetaient, le tonnerre, oh, ça faisait tout branler, j'avais trop peur pour prier. Il dit, j'ai commencé à dire, Seigneur, sois miséricordieux, et bam,
faisais l'éclair. Je disais, où en étais-je ? Seigneur, sois miséricordieux. Et bang, faisait l'éclair. Il dit, mais j'ai appris une leçon. Il dit, cette vieille et sainte femme était aussi fraîche et heureuse qu'elle pouvait l'être. Il dit, elle lui parla comme si elle l'avait connue depuis qu'elle était un bébé, comme s'il était son père ou sa mère. Il dit, elle n'était pas plus distraite que rien. Il dit, j'avais peur à mort. Et il dit, finalement, j'ai sorti ces mots. Et dit-il, Seigneur, si tu veux simplement me laisser vivre et que je trouve un lieu où c'est plus tranquille, je viendrai à toi. Il eut une autre chance, mais peut-être pas vous. Quand les jugements de Dieu commencent à se déverser, il n'y a plus de chance. Vous avez votre chance maintenant. Ceci est votre chance. La tempête était sur lui. Il dit, pasteur, est-ce possible pour un homme comme moi d'être vraiment rangé dans cette sécurité? Alors quand la mort commencera à venir sur moi, que je puisse entrer là pour lui parler comme cette vieille sainte l'a fait. J'ai dit, mon fils, le sang de Jésus-Christ qu'il a fait de cette manière peut te faire de cette manière maintenant. Et je me tenais près de mon automobile. C'était un garçon bien habillé, cultivé, éduqué. Il tomba sur ses genoux dans la cour pleine de boue. Et là, il trouva ce lieu caché, ce refuge dans le temps de la tempête, ce rocher dans un pays épuisant. Vous n'avez pas besoin d'être épuisé aussi longtemps que vous êtes dans le rocher. Le rocher est un lieu qui n'est pas un lieu où vous vous épuisez. Le rocher est un lieu de satisfaction. Pouvez-vous simplement vous asseoir, être aussi en sécurité que possible. Il y a l'heure qui vient, et elle est maintenant, et le scellement s'achève. Là où tous les hommes et les femmes, sur la face de la terre, seront dans ce lieu de refuge, comme ce fut au jour de Noé, ou à l'extérieur de cela. Vous devez prendre votre décision. Cette sécurité est Jésus-Christ. Cela, il est le seul lieu, le seul qui est la vie éternelle. Personne ne peut aller au Père que par lui. Il est l'arche de notre sécurité. Le Saint-Esprit rend témoignage avec nous maintenant que nous sommes passés de la mort à la vie. Et quand nous regardons au tombeau et nous savons que chacun de nous va là, nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Quand vous irez à la maison ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant de lire Apocalypse chapitre 8. Vous voyez les tempêtes et les plaies qui doivent venir. Elles frapperont la terre et les tonnerres et les éclairs vont ébranler les cieux. Les malheurs vont passer par-dessus la nation. Les hommes pourriront dans leur chair, les maladies les frapperont, les docteurs n'en savent même rien. Mais rappelez-vous, avant que cela n'ait lieu, il y a un scellement qui va de l'avant. Et les anges, la mort et les plaies furent commissionnés par Dieu. N'allez pas près d'aucun de ceux qui ont le sceau sur leur front. Et le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Peu importe combien durement l'arche a été secouée, peu importe combien de fois les éclairs ont frappé près de cela, 10 000 tomberont à votre droite et 1 000 à votre gauche, mais ça ne viendra pas sur toi. Le Saint-Esprit. J'ai lu, un chevalier pâle va de l'avant. Celui qui est appelé la mort et l'enfer le suivait, un chevalier noir avec une balance dans sa main, une mesure de blé pour un denier, 2 mesures d'orge pour un denier, et ne fait point de mal à mon huile et à mon vin. J'ai entendu par la Bible les jugements à venir de Dieu, où la maladie et le trouble et le désastre frapperont les nations, et chaque nation brisera en morceaux. Je lis dans la Bible.
Espace non enregistré sur la bande originale anglaise de l'éditeur.
Tout était tranquille, mais le Seigneur Jésus enleva la noirceur de ses yeux, et il agrippa le maire de la ville et il cria, « Je peux voir, je peux voir !» Quand des milliers se tenaient là, des mahométans et ainsi de suite. J'ai dit, « Maintenant, quel est l'âge de la sûreté ?» J'ai dit, « J'ai lu dans votre journal l'autre jour, là où tous les petits oiseaux qui avaient l'habitude de se jucher dans les rochers autour de la clôture, dans les grandes tours de la bâtisse du coin, vous savez, l'Inde est un pays pauvre. » Alors ils ramassent des pierres dans le champ et ils en font leur clôture. Et les petits oiseaux bâtissent leur nid dans ces rochers, les crevasses et dans les trous. Ils vont là, ils font là leur nid pour sortir ou se protéger de la pluie. Et ensuite le bétail, tout un après-midi, quand le soleil traverse à travers l'ouest,
Pourquoi le bétail se tient toujours à l'ombre de certaines clôtures et de ces grandes tours pour se tenir à l'ombre? Mais pendant environ 2 jours, la chose la plus étrange est arrivée. Tous les petits oiseaux ont pris leurs bébés, les petits oisillons, tous ensemble, et se sont envolés loin des murs, et ne sont pas retournés même le soir. Ils sont sortis au milieu du champ et ils se sont assis, le bétail ne voulait pas descendre dans l'après-midi. Ils sont restés éloignés des murs, et ils se sont rassemblés, ils se tenaient si près ensemble, qu'ils se sont fait de l'ombre les uns pour les autres. Frères, sœurs, c'est ce dont l'Église a besoin, c'est ce que l'Église devrait faire. Nous n'avons pas besoin de l'ombre de ces tours de Babylone aujourd'hui, ou du modernisme. Nous avons besoin des bénédictions les uns des autres, ensemble. Notre témoignage et notre amour chrétien et notre fraternité répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est cela qui fait l'ombre. Quand je peux prendre mon frère par la main, ma sœur par la main, et savoir que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, que nous nous aimons les uns les autres, et que nous tenons ensemble dans cette grande cause, la cause de Christ. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, unitaire, binitaire, trinitaire, ou quoi d'autre encore, ça ne fait aucune différence. Pour autant que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, alors nous avons la communion les uns avec les autres. C'est ce que nous voulons, la fraternité, la communion. Et ils se tenaient là dans les champs. Ils refusaient de se tenir dans l'ombre des murs. Et les gens pensaient que c'était curieux. C'est un acte étrange. Qu'est-il arrivé? Tout à coup, il vint un tremblement de terre qui secoua les murs jusqu'au sol. Et si les petits oiseaux avaient été là-dedans, eux et leurs bébés auraient été comme la femme, son mari et leurs bébés, à Miami ou à Okeechobee, ils seraient morts avec la chute du mur. Si le bétail se serait tenu alentour pour prendre ce support des murs, ils auraient péri avec les murs. Cela fait 3 ans de cela. J'ai la découpe du journal. Non, Thomas Nickel l'a maintenant pour la voix des hommes chrétiens, le journal des hommes chrétiens. L'antenne dans les journaux dit, les oiseaux retournent à leur place, le bétail revient du champ. Et si Dieu, dans les jours de Moïse, les jours de Noé, pouvait avertir le bétail et les oiseaux de venir en sûreté dans l'arche, que la destruction approchait une tempête, il est encore le même Dieu ce soir. Il aime encore le bétail et les oiseaux, et s'il a fait un moyen pour un oiseau ou pour une vache, afin qu'elle échappe à la colère du jugement, combien plus a-t-il fait un moyen d'échapper pour vous et moi, qui sommes les descendants de sa création? Combien plus a-t-il fait un moyen d'échapper pour nous? Et nous sentons le Saint-Esprit qui attire dans nos cœurs. L'heure arrive. Nous voyons les ombres de l'âge atomique. Nous voyons les ombres de l'âge d'hydrogène. Nous voyons les nations se briser. Israël se réveille. Les nations se brisent, Israël se réveille, les signes que les prophètes ont prophétisés, les jours des gentils sont comptés avec toutes ces horreurs, retournez, ô dispersés, vers les vôtres. C'est de cette manière aujourd'hui, vous connaissez tous la vieille chanson de Heywood, le jour de la rédemption approche, les cœurs des hommes tremblent de peur, soyez remplis de l'Esprit et que vos lampes nettoyées éclairent. Et regardez en haut, car votre rédemption approche. Les tempêtes approchent. Il y a un lieu de refuge. Oh, un lieu de refuge béni. Et c'est en Christ. Inclinons nos têtes pour un instant. Je veux que vous pensiez sincèrement et solennellement à cela pendant les prochaines minutes. Avez-vous déjà trouvé votre lieu de refuge béni, hors de la colère? Rappelez-vous, il n'y a pas de lieu de refuge. Il n'y en a qu'un seul. Vous êtes peut-être un bon membre d'une église. Il n'y a rien de mauvais à dire contre cela. Mais si c'est tout ce que vous avez, et si votre vie ne peut pas être comparée avec le livre des actes, si le Saint-Esprit que vous professez avoir ne pouvait pas vivre comme ils l'ont fait dans le livre des actes, si votre vie pourrait écrire un autre livre, vous feriez mieux de prendre l'avertissement. Si la première vigne a produit l'église de Pentecôte, la seconde vigne, ou branche plutôt de la vigne, conduira à une autre église de Pentecôte, avec une expérience de Pentecôte, portant les mêmes fruits que la première église avait. Demeurez-vous dans cette présence bénie et sacrée du Seigneur? Êtes-vous passé de la mort à la vie? Reposez-vous sur une certaine émotion, un effet psychologique, ou sur un sermon intellectuel? Ou demeurez-vous continuellement dans sa présence, avec les fruits de l'Esprit dans votre vie?
la longanimité, la bonté, la douceur, l'humilité. Pouvez-vous supporter que quelqu'un parle de vous et les aimer tellement jusqu'à ce que dans votre cœur vous priez pour eux? Ou est-ce une prière un peu égoïste? Oh Seigneur, je sais que je devrais prier pour lui, mais, oh non frère, est-ce que cette douceur et cet amour de Dieu, oh balaye sur mon âme, oh Saint-Esprit, souffle sur mon âme. Si vous n'avez pas trouvé ce lieu de sûreté, mon frère, je ferai ma dernière visite à Phoenix un jour. C'est peut-être celui-ci, pour autant que je sache, et la dernière fois que l'Évangile sera prêché de cette chair. C'est peut-être ceci, je ne sais pas. Nous semblons très près de la fin des temps. Israël est revenu dans son pays, le dernier signe qui a été donné. Et je regardais une photo l'autre soir où ils transportaient leurs vieillards, les infirmes, hors des bateaux et toutes ces choses. Pour entrer là, ils ont dit, êtes-vous revenu dans votre pays pour y mourir? Et ils dirent, non, nous sommes revenus pour voir le Messie. Ne vous inquiétez pas, le figuier commence à bourgeonner, c'est le dernier signe. L'enseigne, le plus vieux drapeau dans le monde, flotte au-dessus de Jérusalem. Elle est une nation pour elle-même maintenant, avec sa propre armée. Elle fut aveuglée pour une petite saison, mais elle revient ensemble de nouveau. Dieu l'a promis, la fin des gentils sera alors. Il cherche pour un Messie. Vous savez, il fut demandé une fois à Dieu, « Peux-tu oublier Israël ?» Il dit, « Combien hauts sont les cieux? Combien profonde est la terre? Mesurez-la. » Le prophète dit, « Je ne le peux pas. » Il dit, « Moi non plus, je ne peux pas oublier Israël. C'est la prunelle de mon œil. » Voilà le dernier signe. Jésus a dit, « Quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche, même à la porte. » Israël commence à être restauré. Ils ont eu leur propre argent il y a quelques semaines. Elle a sa propre monnaie et tout. Elle est une nation complète. Qu'attendons-nous? La clôture de l'âge des gentils et le dernier signe qui a été prophétisé, qui devait être donné aux gentils, a été démontré à cette nation et à travers le monde entier, comme cela a été fait au jour de Sodome. Quand il dit, où est Sarah ta femme? Un étranger, comment savait-il que c'était Sarah? Et comment savait-il que son nom était Sarah, la femme d'Abraham? Il dit, elle est dans la tente derrière toi. Et Sarah rit en elle-même derrière dans la tente. L'homme dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Jésus dit, quand cela s'accomplira, le temps est proche. Nous l'avons vu, cela passera par-dessus, le jugement va suivre. Êtes-vous dans ce lieu de refuge béni, ami? Et que Dieu soit miséricordieux. Si vous ne l'êtes pas, voulez-vous qu'on se rappelle de vous ce soir dans la prière? Voulez-vous lever votre main et dire, frère Branham, priez pour moi. N'importe où dans le bâtiment, levez, que Dieu vous bénisse. Et vous. C'est bon, que Dieu vous bénisse. C'est, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre qui dirait, rappelez-vous de moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse là en arrière. Et que Dieu vous bénisse loin, là-bas en arrière, jeune dame. Cette dame ici, que Dieu vous bénisse. Oui. Le Seigneur vous bénisse, monsieur. Et vous aussi. Oh, c'est très bien. Quelqu'un d'autre, levez simplement votre main. Et vous dites, frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse là-bas, monsieur. Que Dieu vous bénisse ici, madame. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que cela veut dire, frère Branham, quand je lève mes mains? Vous savez, selon la science, vous ne pourriez pas lever vos mains. S'il n'y avait pas une vie en vous, vous ne pourriez pas le faire. La science ne sait pas ce qu'est la vie. Ils savent que c'est la vie, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas la produire. Et qu'est-ce que c'est? La science dit que vos mains, la loi de la gravitation tient vos mains vers le bas. La même chose comme cela tient vos pieds au sol. Mais vous avez un esprit en vous. Et cet esprit, quelque chose a été près de vous. Jésus a dit, aucun homme ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire premièrement et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. N'êtes-vous pas heureux ce soir de savoir que Dieu peut traiter avec votre cœur? Qu'il y a une petite voix là disant, viens en sécurité. Maintenant surveillez, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Qu'est-ce qui devait arriver? Vous deviez avoir quelque chose placé près de vous, qui vous dise, tu as tort. Oh, vous appartenez peut-être à une église, mais tu as tort. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit encore, alors vous n'êtes pas dans l'arche. Comment entrons-nous dans l'arche? Non pas en marchant comme ça à l'intérieur. Comment y entrons-nous? Par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. Tous les croyants sont baptisés dans ce seul corps. Comment? Par le Saint-Esprit. Et ces signes accompagneront ceux qui croient.
nous y voilà, dans le corps, en sûreté. Si vous ne l'êtes pas, ne laissez pas Satan vous mépriser suffisamment ce soir pour vous empêcher de lever votre main. Eh bien, qu'est-ce que cela fera? Cela brise chaque loi scientifique quand vous levez votre main. Cela montre que quelque chose en vous a fait une décision, quelque chose de plus grand que la science, quelque chose qui a défié les lois de la science, disant, il y a un esprit en moi qui dit « j'ai tort », et il y en a un assis près de moi qui dit « accepte-moi ». Et j'ai levé mes mains vers là où la voix parvenait, le ciel. Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, j'ai besoin de toi, je veux le Saint-Esprit, je veux être en sécurité, je veux que mes péchés soient sous le sang, je veux être scellé dans le corps de Christ, afin que je me sente confortable, que je puisse jouir des rayons de guérison, que je puisse jouir des rayons de guérison divine dans mon âme, une guérison physique dans mon corps, et que je marche avec l'agneau chaque jour en sûreté. Peu importe ce que les papiers disent, les journaux, j'ai entendu parler d'un grand journal appelé la Bible, et je suis allé en sûreté. Peu importe ce qui a lieu, je suis en sécurité. Pour ceux, que si la mort me prend, ceux qui sont en Christ, Dieu les amènera avec lui à sa venue. Je suis encore en sécurité. La mort ne peut pas me nuire. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre maintenant, avant que nous prions? Je veux ce lieu de sécurité pour y demeurer, frère Branham. Y en a-t-il un autre qui n'a pas levé sa main? Que Dieu vous bénisse, madame. C'est bon. Que Dieu vous bénisse là-bas en arrière. Oh, c'est merveilleux. Maintenant, le même Dieu qui vous a convaincu que vous avez tort est là pour rendre tout cela correct avec vous. Inclinons nos têtes maintenant, constamment, et prions. Parlez-lui simplement maintenant dans votre propre manière. Si vous ne pouvez que simplement faire comme ce publicain qui s'est frappé la poitrine, disant, Seigneur, sois miséricordieux envers moi, un pécheur, c'est tout ce qu'il avait à dire. Dieu connaissait le reste de cela. Et il s'en alla à la maison justifié. Puissiez-vous y aller de même ce soir à l'abri de la tempête. Notre Père Céleste, ces quelques paroles mélangées et divisées, juste comme je me suis senti conduit de les dire, elles sont allées de l'avant, et je prie que de quelque manière, comme le petit garçon qui répète l'alphabet, disait que c'est la seule chose qu'il savait faire, tu connaissais toutes les paroles, tu pouvais mettre les lettres ensemble, tu as vu la simplicité de son cœur. Ô Dieu, regarde à mon pauvre cœur ce soir, et vois la simplicité de mon cœur. Et le message fut destiné, Seigneur, dans l'amour et la douceur, pour les gens, afin qu'ils puissent trouver ce repos que tu m'as donné, et que tu as donné à des milliers d'autres, afin qu'ils connaissent Jésus, le seul sauveur de leur âme, afin qu'ils puissent les conduire à notre Père, Dieu. Et là, ils seront cachés en sûreté dans son sein, à travers son côté percé, l'accepter et être libérés du jugement. Et plusieurs ce soir, Seigneur, oui, plusieurs ont levé leurs mains. Que puis-je faire d'autre, Seigneur, que de leur dire de croire? Et s'ils croient, et s'ils sont sincères en cela, c'est impossible pour eux de ne pas avoir la vie éternelle en cette heure même. Car tu as dit, celui qui entend mes paroles, elles étaient les tiennes, elles n'étaient peut-être pas bien placées ensemble, peut-être, mais tu peux les placer ensemble, et peut-être tu l'as fait pour ceux qui ont levé leurs mains, car tu as dit, aucun homme ne peut venir à moins que je ne l'attire. Et tous ceux qui viennent, je ne le rejetterai pas, mais je lui donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous savons, Seigneur Dieu, c'est toi. Ils ont levé leurs mains, ils te veulent. Maintenant, Père, remplis leur cœur avec la bonté et la miséricorde, avec le Saint-Esprit. Que ceci soit un soir qu'ils n'oublieront jamais, parce que ceci est le soir où ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et pendant que nous avons nos têtes inclinées, si vous croyez que Dieu entend ma prière, si vous voulez que je vous impose les mains et que je prie pour vous, si vous voulez juste, pendant que tous ont leur tête inclinée et la musique, très doucement, s'il vous plaît, je voulais, autant qu'ils le veulent, qu'ils viennent ici, qu'ils veulent accepter ce grand message de salut, le Saint-Esprit, et dire, dites, frère Branham, je veux aller de l'avant, maintenant pour confesser que j'ai eu tort, mais je veux que le Saint-Esprit me pardonne, qu'il soit doux envers moi maintenant, qu'il me donne la paix quand l'ébranlement viendra. Vous savez, Tout ce qui pourra être ébranlé sera ébranlé alors. Mais nous avons reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, c'est Christ. Voulez-vous venir et vous tenir ici à l'autel avec moi? Laissez-moi tenir votre main et prier avec vous. Si vous voulez, levez-vous et venez maintenant, pendant que nous chantons alors doucement. Vous qui avez levé vos mains, venez ici maintenant, tenez-vous à l'autel pour un moment, si vous le désirez. Pendant que nous chantons ce verset maintenant, revenons à la maison.
La congrégation continue de chanter, Seigneur, je reviens à la maison, notre légitaire.
Qu'en est-il? Si ceci est la dernière fois que vous entendez ceci, pensez-y, qu'en est-il si c'est la dernière fois? Qu'en est-il si les sirènes crient après un peu de temps dans la rue? C'est vous, et qu'ils viennent pour chercher votre corps. Qu'en est-il si vers 2 heures du matin, vous appelez le docteur, c'est une crise cardiaque? Vous êtes par vous-même. Ceci ne va-t-il pas résonner? Venez maintenant en sécurité, n'est-ce pas? Parce que vous aurez à vous tenir debout dans les derniers jours. Je reviens à la maison. Revenons à la maison. Revenons à la maison. Que Dieu vous bénisse.
Le Brennan prie pour les gens à l'autel pendant que la congrégation continue de chanter. Seigneur, je reviens à la maison, notre éditeur.
Ne voulez-vous pas vous lever et descendre avec ces autres qui se tiennent là, autour de l'autel ici? Venez. Nous en arrivons au jugement maintenant. Ne voulez-vous pas venir? Venez maintenant. Confessez vos péchés maintenant. Vous n'aurez pas besoin d'aller en jugement. Que Dieu bénisse ce couple qui vient de venir. Que Dieu vous bénisse, monsieur. C'est bon. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Venez, descendez. Venez, monsieur. J'ai erré loin. Oh, venez, mon frère espagnol. Loin de Dieu. Maintenant, je viens. Ne voulez-vous pas vous lever maintenant et descendre ici? Prions. Venez à l'abri. Du péché, trop longtemps, j'ai marché au Seigneur. Je reviens à la maison. Puis-je dire ceci? Pendant que l'orgue joue continuellement, le message ce soir est un message d'amour, de grâce et d'avertissement. Demain soir, ce message sera peut-être dans vos oreilles quelque part ailleurs, un message de condamnation et de jugement. Et pendant qu'il a de la miséricorde en lui, venez, recevez-le. Ne voulez-vous pas, ami? Je dois vous rencontrer avec ceci. Ce que j'ai dit ce soir un jour, ne voulez-vous pas venir? Que cela parle de miséricorde pour vous? Pendant que nous chantons une autre fois, maintenant je reviens à la maison, ne voulez-vous pas le faire? Restez simplement ici, chers sœurs. Restez tous ici, si vous voulez bien, juste un moment. Nous voulons avoir la prière avec ceux qui sont ici à l'autel. Laissez-les simplement rester là où ils sont. Une autre fois maintenant, chantons. J'ai erré loin. Oh, levez-vous, venez, ne voulez-vous pas? Je vous invite. Maintenant, je reviens à la maison. Les sentiers du péché, trop longtemps, je les ai parcourus. Seigneur, je reviens à la maison. Chrétiens, priez maintenant. Revenons à la maison. Venez, mon frère pécheur. Venez, sœur. Rachetez par son sang. Pour eux, Christ est mort. Ne voulez-vous pas venir maintenant? Laissez-moi vous persuader dans cette grandeur quand le jugement pend au-dessus des portes de la nation, les portes du monde. Ne voulez-vous pas venir? Je vous en supplie, en place de Christ, venez à Christ pendant que vous le pouvez. Que ce soit la miséricorde et non pas le jugement. Maintenant, fredonnons-le.
Frère Branham commence à fredonner. Seigneur, je reviens à la maison, notre éditeur.
Y en aurait-il d'autres, juste un moment pendant que nous attendons ici maintenant? Y en a quelques-uns qui prennent leur place parmi ceux-ci? N'est-ce pas un temps de douceur? Je ne sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je me sens si bien maintenant. C'est ce que je désire, c'est ce que j'aime. Quand j'étais juste un garçon, un jeune prédicateur, la sœur d'un ministre m'a dit une fois, elle voulait que j'aille à une danse avec elle. Je lui ai dit que je n'allais pas dans les danses. Elle m'a demandé de l'emmener à un spectacle, et je ne voulais pas le faire, j'ai dit, je ne vais pas au spectacle. Elle dit, alors où est-ce que tu as du plaisir? J'ai dit, viens avec moi à la réunion. Et ce soir-là, j'avais une réunion de tente, sous la tente. J'étais juste un garçon d'environ 21 ans, un jeune homme. Et ce soir-là, quelques-uns sont venus à l'hôtel. Je l'ai vu assise là au fond, pleurant. Je lui ai fait signe, j'ai dit, tu m'as posé une question hier soir, je peux répondre ce soir. Elle dit, qu'est-ce que c'était, Billy? J'ai dit, ceci est la plus grande joie de mon temps. De voir les pécheurs venir, quelque chose de satisfaisant dans mon cœur, par le simplement de la paix, revenant à la maison. Je reviens à la maison pour toujours. J'aime simplement la douceur. Vous ressentez tout comme le Saint-Esprit est présent, comme il se plaît, cela est bien fait, cela est fait correctement. Ceci est une préparation, un service de guérison, la guérison spirituelle d'abord. Le corps de Christ est malade. Il a besoin de guérison, le corps spirituel. Je reviens à la maison. Maintenant, inclinons nos têtes, que chacun prie, tout le monde doit être en prière. À la maison, pour ne plus errer.